Nous sommes dans une période où la lecture de la Torah traite de l'élaboration du Mishkan. Le Mishkan est en fait l'expression de la relation entre l'infini et le fini. C'est comme s'il y avait dans notre monde une ambassade divine. Une ambassade de Dieu dans ce monde, c'est le Mishkan. À quoi sert cette ambassade? Eh bien, elle sert à nous placer face aux valeurs de l'infini qui nous accompagnent dans ce monde d'en bas. Pour arriver à ce degré, il faut en fait trois étapes. La première étape, c'est d'abord de choisir le peuple qui sera porteur du message. C'est la sortie d'Égypte. Deuxième étape, lui donner le message en question. C'est le don de la Torah. Et troisième étape, le nôtre, c'est l'instant où va commencer d'une manière continuelle l'accompagnement des valeurs de l'infini dans ce monde. Pourquoi ça ne suffit pas le don de la Torah? Parce que le don de la Torah était ponctuel. Et là, nous sommes dans une situation de continuité, de permanence. Donc la Shrina va être d'une manière permanente, continuelle, avec le peuple capable de véhiculer le message divin. Pour comprendre cette combinaison, en fait, il faut véritablement approfondir le sens même de ce Mishkan. Ce n'est pas évident. Les sages nous disent dans la Kabbalah que le mot Mishkan est composé de deux lettres, Memshin, et encore deux lettres, Chaf Nun. Qu'est-ce que ça veut dire, cette combinaison? Alors, bien entendu, le nom c'est Shekhina, qui en réalité est un verbe, et non pas le nom de quelque chose, comme Ritza, comme Fria, c'est-à-dire la course, la natation, eh bien il y a Shekhina. C'est le nom d'un verbe. Non, c'est Shekhina. Comme Rikoud, comme Bechina, comme Shekhina. Donc Shekhina est le verbe qui actionne en fait l'infini pour le coller au fini. Il faut donc qu'il y ait dans ce Mishkan, dans cet élément, deux éléments. Un qui appartient aux valeurs d'en haut et un qui appartient aux valeurs d'en bas. Les sages nous disent que ceci vient réparer en fait la première faute. Car avant que la faute ne soit commise, la Shekhina était sur terre. La Shekhina. La première faute. Adam Arishon. Donc avant la faute du premier homme, la Shekhina était sur terre. Dès que cette faute a eu lieu, la Shekhina est remontée en fait et pour repartir, s'est repliée dans sa source. Donc a laissé entre guillemets ce monde vide. Il faut donc un élément de ce monde et un élément du monde d'en haut entre guillemets pour coller les morceaux. Et une fois les morceaux collés, eh bien on est censé retrouver en fait Chava, la première femme, qui en réalité, celle qui a cassé le système, et donc la réparation va être une réparation qui va venir par elle. Je vous rappelle que le mot Chava, c'est la racine du mot Chavaya, c'est-à-dire l'expérience de la chose. Et son véritable nom, c'est Chaya, la vie. Et pourquoi elle est devenue Chava? Tout simplement parce qu'elle a tiré cette expérience vers le bas. Et les Chachamim nous disent que Chivia En araméen, c'est le nachash, c'est le serpent. On l'appelle chivia. Donc en réalité, elle a, à partir du moment de la faute, elle est devenue serpentesque. Elle a associé en réalité chava et chivia. Et donc, il faut réparer par elle. Maintenant, cette réparation, donc je vous le disais, doit être combinée par un élément céleste et par un élément terrestre. Et il faut unir les deux. La Kabbalah nous enseigne, elle nous rappelle une histoire qu'on a un petit peu oubliée dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, il est un verset qui passe d'une manière anodine. On ne fait pas très attention à ce verset. Et le Ari Akadosh nous dit, faites attention à ce verset, il est très important. Vaithalech Chanoch et ha Elohim ve'enenu. Ki la kachoto Elohim. Incroyable. Un verset, on ne sait pas ce que ça veut dire. Chanoch marchait selon les préceptes de Dieu, et Dieu l'a pris. Il n'est plus là. Nous disent les sages que Chanoch aurait dû, s'il était encore en vie dans ce monde, tomber, s'éloigner de sa sagesse, et donc fauter. Pour ne pas qu'il arrive à cette faute, c'est comme si Dieu l'avait pris avant le temps, pour empêcher sa faute. Donc, il l'a pris avant qu'il ne faute, et il est arrivé, comme certains, sans maintenant faire la liste, dans le jardin d'Éden, vivant. Il y a certaines personnes qui sont avec leur corps dans le jardin d'Éden. Alors que la plupart, ce ne sont que les neshamot, que les âmes qui montent. Le corps est enterré sur terre. L'un d'entre eux, c'est Chanoch. Chanoch est tout entier là-bas. Sous-entendu que son corps ne fait plus obstacle à sa neshama. Justement, c'est tout un système. C'est pas par hasard que pour l'élaboration du Mishkan et pour inaugurer quelque chose, on rappelle Chanoch tout le temps. Ça s'appelle Chinuch. Donc, Chanukat Bait, c'est Chanoch Bait. L'éducation d'un enfant, Chanoch la Nahar Alpidarko, Gam Kiyazkin lo Yassur Mimena, éduque l'enfant selon son tempérament. À l'enfant, respecte l'enfant. Et on utilise sans cesse le mot Chanoch, qui est en réalité Chanouka, qui est en réalité Chinour, et chaque fois qu'on inaugure quelque chose, on rappelle ce fameux Chanoch. Pourquoi? Et justement parce que Chanoch, il est tellement dans cette sagesse, dans cette limpidité, que son corps et son âme ne se gênent plus, et donc il est monté tout entier vers le haut. Alors les Chachamim nous disent, obligatoirement, quand on veut construire le Mishkan qui va être l'élément de lien entre les mondes, eh bien, les lettres de Chanoch vont être dans le Mishkan. Donc voilà deux lettres du mot Chanoch. J'ai pris en réalité donc le Noun et le Chaf. Il me reste le Vav et le Chet. On est déjà dans deux lettres. Et maintenant, il me faut un élément du bas, Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe, il manque juste le Hé, il est là. Ça veut dire qu'en associant Moshe à Chanoch, je prends les deux lettres de Moshe et les deux lettres de Chanoch et il me reste Chava, c'est-à-dire j'arrive à corriger la première faute qui a fait tomber l'humanité. Grâce à qui? Grâce à Chanoch et à Moshe. Qui est Chanoch? C'est en réalité le reflet de Moshe ou la source de Moshe au niveau d'en haut. Si vous prenez Moshe, vous le regardez en bas, Chanoch c'est la même chose en haut. C'est-à-dire que vous avez obligatoirement un Moshe de source et un Moshe de résultat. Et il faut sans arrêt voir si la source et le résultat sont identiques. Et alors là, tu peux prendre un degré de source, un degré de résultat, ou inversement, et tu as le mot Mishkan. Maintenant, dans ce mot Mishkan, il va y avoir, en fait, et je le réécris maintenant ici, tout ce que le peuple d'Israël va devoir faire vis-à-vis des nations du monde. Donc, ce n'est pas une maison, c'est un élément, une construction céleste sur terre, qui va nous donner, qui va nous enseigner, nous, les porteurs du message, car nous sommes Israël, n'oubliez pas, on a été choisis pour ça. Eh bien, dans le mot Mishkan, nous avons tout ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, avant tout, la malchut, la royauté. On doit devenir des rois. C'est-à-dire, le roi que nous allons placer, c'est le reflet de Dieu sur terre. On l'appelle, dans son sommet, Mashiach. Donc, le Mashiach est un melech. Donc, il faut une malchut. Il faut aussi des juges, donc des shoftim. Ceux qui vont, en réalité, diriger et juger les choses selon le degré divin, pour ne pas qu'on se perde, parce qu'on peut avoir des juges qui ne vont pas selon la Torah, et leurs jugements vont arriver à des déviations totales de ce que l'éternité veut. Donc le chauffeur doit être, encore une fois, fidèle à la source. Troisième degré, nous devons avoir des kohanim, donc kehuna. C'est-à-dire, nous devons être des prêtres qui, dont le rôle est de certifier. Le mot Kohen, je vous l'ai déjà dit, c'est Kehen. Hen veut dire oui en hébreu. Lehanhen, c'est faire comme ça en hébreu, que vous le sachiez. Ken ani achshav mehanhen. Oui, Ken. Ça veut dire que je dois comprendre qu'à chaque fois que je certifie quelque chose, je dis oui. Par exemple, comment s'appelle le pouce en hébreu? Bo, hen. Quand je fais comme ça, ça veut dire je certifie. C'est ok, c'est super. C'est pas par hasard. Ça veut dire bo, en lui, il y a le oui. Le bo, hen. Quand tu veux dire à quelqu'un c'est top niveau, tu lui fais comme ça. C'est bizarre, tu lui fais pas comme ça ou autre chose, Rav Shalom. Et donc il y a ici quelque chose d'important qui dit qu'en réalité on est le oui. Donc le Kohen ou la Kehuna, c'est quoi? C'est la certification d'Hachem dans ce monde. Donc nous sommes tous Mamlechet Kohanim. Mais pour savoir que notre message est vrai et qu'on n'a pas inventé quelque chose, il faut que nous soyons Nevi'im, Nevu'a, la prophétie. Donc en réalité, le mot Mishkan englobe en lui la malchut, la ma'arechet ha-mishpat, la kehuna et la nevu'a. Ça veut dire que, avec ces quatre éléments, on peut fonder une nation qui sera le reflet des valeurs divines, sur terre. Est-ce que c'est clair? Donc il faut, en réalité, travailler pour élaborer ce mishkan. Vous comprenez bien qu'il s'agit bien plus qu'une construction d'un appartement, d'une maison, pour enfermer Dieu entre quatre murs. Ça veut rien dire. Donc le mot Mishkan englobe en lui tous ces degrés. Alors, on va commencer et on va voir ce que j'ai essayé d'apporter dans le texte que je vous ai écrit. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Voilà l'ordre d'Hachem. Ve'asu li. Ils feront pour moi. Qu'est-ce que c'est pour moi? Pourquoi pour moi? Il n'y a qu'à dire qu'ils fassent un Mishkan. Ve'asu Mishkan. Qu'est-ce que vient faire ce lit? C'est pour moi. Ça veut dire que, avec cet élément que vous allez construire, faire, la asot, c'est tikkun, eh bien moi, je vais pouvoir passer. Donc je me suis mis, moi, donc Dieu, une règle, je ne passe pas dans ce monde si ce n'est que à travers vous, Israël. Si vous ne voulez pas jouer le rôle, moi, je reste dans mon ciel. Je ne n'apparais jamais, chas v'shalom. Donc à partir de maintenant, vous êtes, les enfants d'Israël, responsables de ma venue sur terre. De la même manière, quand j'épouse une femme, Qu'est-ce que je fais quand je l'épouse? Eh bien, je contracte une alliance avec elle pour lui dire, tu es, toi, la porteuse de mon esprit. Donc tu vas donner des enfants, tu vas donner un avenir qui vient de moi, car les enfants ils étaient chez moi avant d'être chez elle. Et s'il n'y avait pas cette femme, moi je n'aurais pas pu avoir une concrétisation de ma pensée dans une réalité. Donc Akadosh Baruch Hu joue le même rôle avec nous. On l'a déjà dit, nous sommes sa femme, il est notre époux. Qu'est-ce que je dis quand j'épouse une femme? Areat mekudeshet li. Voilà, veasu li. C'est-à-dire qu'il utilise les mêmes termes, le lamed et le yud, qui sont en réalité, en valeur numérique, 40. Donc, vous êtes en réalité mon chiffre 40, celui qui est capable de traduire des valeurs céleste pour en faire une réalité terrestre. À chaque fois, le chiffre 40 joue ce rôle dans l'histoire. La maman devient maman, même si elle n'a pas encore accouché, sa grossesse devient grossesse au 40e jour. Pour passer d'une étape à une autre, il faut toujours 40 degrés. Tout le temps. Moshe monte au ciel, 40 jours. Même si c'est 3 fois 40 jours, parce qu'il montera en tout et pour tout 120 jours. Mais à chaque fois, on ne dira que 40, 40, 40. C'est le chiffre qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que 40, c'est ce qui est capable de traduire la valeur divine dans un monde matériel. Comment est-ce qu'on écrit la lettre qui porte ce chiffre? Même. Pour écrire même, qu'est-ce que j'écris en fait? Deux lettres. J'écris un Kaf. Et j'écris un Vav. Donc en réalité, Kaf est en valeur numérique 20, et le Vav 6, donc je suis encore dans le tétragramme. Donc la lettre même, c'est le tétragramme, c'est le 26 du nom d'Hachem. Donc à chaque fois que vous voyez la lettre même, c'est une matrice qui a les jambes entre lesquelles va sortir le bébé. Donc la lettre même est secrète. C'est elle qui va faire le lien entre le Aleph d'Akadosh Baruch Hu et le Taf de la réalité. Donc ça devient Emet. Et s'il n'y a pas cette lettre d'intermédiaire, ça ne marche pas. C'est comme si ça c'était l'idée et ça c'était la réalisation. Donc le Aleph doit devenir Taf. Et si le Aleph devient Taf, ça devient une cellule Taf. Bereshit bara Elohim et. Et c'est justement ça. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a tout créé pour que le Aleph devienne Taf. En français, le A devienne Z. D'accord? Mais en réalité, c'est le secret. Donc, pour sortir d'Égypte, où il y a toute l'idée et la réalisation de cette idée, la terre d'Israël, il faut 40 ans. Donc le chiffre 40 est un chiffre secret qui nous fait passer, qui nous fait monter d'un degré à un autre.
C'est prévu, alors.
Tout le temps. Il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, ça aurait pu être 40 minutes. D'accord? Les 40 ans, c'est autre chose. Ça aurait pu être 40 secondes. Ça aurait pu être 40 quelque chose. Mais ces 40 ans, c'est la possibilité de changer. Parce que vous avez failli, vous êtes tombé. Donc le mot shana ne veut pas dire seulement une année, veut dire shinui. Donc arbaim shana égale arbaim shinuim. Faites 40 changements dans votre tête pour arriver à rentrer en terre d'Israël. Ceux qui ne font pas 40 exercices ne pourront jamais transformer l'idée céleste en une réalité terrestre. Il y a toujours un jeu de 40. Maintenant. Une fois qu'on a compris ce secret, on avance. Le peuple d'Israël est donc celui qui va être capable de traduire donc ses valeurs, pas seulement à la terre, mais à l'humanité tout entière. Puisque notre rôle, c'est d'être le porteur du message, nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Donc il va nous utiliser, et à chaque fois que Moshe va monter, il va falloir qu'il reste une période de 40 jours. 40 jours pour nous. Pourquoi je dis pour nous? Parce que lui, Moshe, quand il rentre dans ce domaine où le temps n'existe pas, c'est plus 40. Il est resté là-bas, même pas une seconde. Vous comprenez ce qui se passe? Alors, le temps qui est compté comme 40 n'est que pour ceux qui sont dehors. Moshe lui-même, si vous lui demandez combien de temps tu es resté là-bas, il va dire, j'en sais rien, moi, une seconde. Mais là, dehors, il s'est passé 40 jours. C'est comme ça que ça marche. Car lui est monté dans une valeur céleste où le temps n'existe pas. Pourquoi le temps n'existe pas chez lui? Parce que qui dit temps dit changement. Or, chez lui, le changement n'existe pas. Akadosh Baruch Hu ne change pas. S'il changeait, il aurait été limité. D'accord? Donc il a toujours été ce qu'il est, il sera toujours. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Car évolution veut dire que je suis faible maintenant et que je m'améliore. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas à s'améliorer, c'est l'absolu. Donc le temps, donc le changement n'existe pas chez lui. Donc la seconde n'existe pas chez lui, car la seconde c'est une shnia. Donc chez lui tout est dans l'unité parfaite. Ok? Alors, ve'asu li mikdash, donc faites-moi, et ils me feront, le terme ve'asu, c'est une asiya. Qui dit asiya dit tikkun. Comme ça que nous apprend le Zohar, à chaque fois que vous avez le terme la'asot, c'est réparé. Asher bara Elohim, la'asot. Toute la création, elle est pour une réparation que vous devez faire. Donc, ve'asu li, ils vont réparer. Que vont-ils réparer? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. La faute de Chava. Car moi, à Kadosh Baruch Hu, j'ai prévu d'être sur terre. Et avec la première faute d'Adam et Ève, que s'est-il passé? C'est comme s'il m'avait jeté, rejeté de la terre. Donc je ne suis plus là. Donc, je suis reparti en fait dans mon ciel. Entre guillemets, Dieu ne part pas. Mais c'est comme s'il se cachait du monde. D'accord? Maintenant, s'il se cache du monde, le monde vit dans les ténèbres. Il ne peut pas vivre, car il ne vit que de sa vie. Donc si Dieu se cache, entre guillemets, c'est une catastrophe pour l'homme. C'est ce qu'on essaie de demander à Kadosh Baruch Hu le jour de Pourim. On lui dit, dévoile-toi de ta cachette. Kitgale, mina Esther, Begilat Esther. Megillat Esther ne veut pas dire le parchemin d'Esther, veut dire une demande du peuple d'Israël, dévoile-toi, toi qui te caches. Et donc on demande à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler. Mais pour qu'il se dévoile, il faut nous, les hommes, et surtout le peuple d'Israël, être au niveau de ces valeurs divines. Car ces valeurs divines veulent passer à travers un conducteur. Et ce conducteur doit avoir la couleur, entre guillemets, de l'infini. Donc Israël, c'est comme l'infini dans ce monde. Et donc il va devoir construire aussi un élément au niveau territorial qui s'appelle le Mishkan. Donc dites Israël quand vous voyez des hommes et des femmes, dites Mishkan quand il s'agit d'un lieu. Et dites Shabbat quand il s'agit d'un temps. Donc le mot Shabbat, Mishkan et Israël, c'est en réalité trois éléments qui sont les mêmes. Vous avez compris? Quand je parle du Mishkan, je parle du Shabbat de l'espace. Quand je dis Shabbat, je parle du Shabbat du temps. Et quand je dis Israël, je dis le Shabbat de l'âme humaine. Et ces trois éléments sont des conducteurs de l'infini, béni soit-il, dans ce monde. Donc nous avons besoin de ces trois.
Il est en chacun.
Quel?
Alors en quoi il est en chacun, sinon on n'est pas
raille. Et tu dois dévoiler. C'est-à-dire plus tu vis le divin qui est en toi, plus tu es vivant. Plus tu dévoiles le divin, plus tu lui ouvres la porte du dedans vers le dehors, plus tu vis. Mais si tu ne dévoiles pas, tu vivotes. Tu survis. Ce n'est pas une vie. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre tous les vivants. Certains s'appellent morts, alors qu'ils vivent et qu'ils bougent. Et d'autres s'appellent vivants, alors qu'ils sont enterrés. Incroyable. Donc la vie et la mort, c'est pas ce que vous pensez. C'est beaucoup plus que ça. Et je peux vous poser la question, à combien de 1 à 10 vous vivez? Et chacun ne devrait pas se mentir et savoir quelle intensité de vie le traverse. Alors vous allez me dire, mais c'est aléatoire. C'est vrai. Et ça change à chaque instant. Quand vous êtes heureuse, quand vous êtes heureux, eh bien vous êtes à 10. Quand vous êtes dans la tristesse, Akadosh Baruch Hu ne peut pas passer, car Akadosh Baruch Hu a une règle, il ne passe pas chez quelqu'un de triste. Incroyable. Donc c'est terrible. Donc c'est un piège, c'est un cercle vicieux. Plus tu es dans la tristesse, moins le divin te traverse, et plus tu es dans l'arma. Et si ça continue, chlet. Donc il y a un problème terrible. Et sans arrêt, ce que je vous dis, c'est une gemara dans le traité de Shabbat. En shchina shora, lo bemakom shel atzvut, lo bemakom shel, et ainsi de suite, ela bimkom simcha shel mitzvah. Donc si tu n'es pas dans la simcha, Akadosh Baruch Hu ne peut pas te traverser, donc tu ne peux pas être prophète. Tu ne peux pas être Kohen, car si tu sers Dieu dans la tristesse, c'est une catastrophe. Tachat asher lo avad eta et Hashem vesimcha ubetuv levav. Toutes les malédictions chas veshalom qui viennent sur l'humanité, c'est parce que lorsqu'on sert Dieu, on ne le fait pas avec cœur. Donc il faut faire très attention. C'est pas parce que vous faites quelque chose que ça y est. Il faut que cette chose ait véritablement le sens de ce que vous êtes en train de faire. Personne n'est en haut en train de marquer des points combien de mitzvot vous avez fait. C'est avec quelle qualité vous avez fait ça. Et comme je disais ce matin, pour construire un mishkan, il faut une qualité première. L'amour. Si vous n'aimez pas, ne donnez rien pour le mishkan. Restez à la maison. On vous demandera pas. Car l'ordre, c'est « Me'et kol ish asheri deven ou libo » Tikroet tourmati. Je ne veux que personne donne s'il n'est pas heureux, s'il n'est pas généreux, large. S'il fait la gueule, quand on lui tape à la porte pour donner, je ne veux pas qu'il donne pour le Mishkan. Parce que les 50 cm carrés qui seront les siens dans le Mishkan, quand quelqu'un sera debout là-bas, il va être dans l'arma. C'est terrible. Alors, je vous ai parlé du Mishkan, mais en réalité, je parle de toute votre vie. Tout ce que vous faites au niveau du Kodesh, faites-le avec cette simcha. Là, je suis en train d'enseigner. Si je le fais de force, il vaut mieux que je reste à la maison. Si je le fais avec simcha, alors il faut que je fasse. Et quand vous faites à manger, et quand vous faites ce que vous faites, et chacun dans son métier, si vous comprenez que vous êtes au service de la nation dans ce que vous faites, ça va vous changer complètement ce que vous faites. Parce que vous êtes au service de toute cette nation qui elle-même est au service donc du divin. Donc le Mishkan c'est bien plus que l'élaboration du tabernacle, comme vous l'appelez en français. Bien ? C'est un tas de bernacles, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Alors, Veshachanti Betocham. Qu'est-ce que ça veut dire Veshachanti Betocham ? C'est un verbe maintenant. Veshachanti ani ofech liot shachen. Donc, je deviens votre voisin, je réside, je viens, je descends, je me dévoile, bien entendu, encore une fois, faites attention, descendre, c'est pas que Dieu est en haut et qu'il descend en bas. Il n'a pas où descendre. Il se dévoile. Betocham, il n'y a pas marqué betocho, mais betocham, c'est-à-dire à travers eux. Je me dévoile au monde. Comme Bereshit, à travers Reshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc il faut chercher qui est Reshit. Et les sages nous répondent, Reshit égale Israël. Sheli Kreou Reshit. Donc Bereshit, c'est grâce à Israël qui s'appelle Reshit, que bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, que Dieu a créé le ciel et la terre. Et qu'est-ce que c'est le ciel et la terre? C'est le passage du haut vers le bas. Alors maintenant on commence le cours. Le Mishkan est un élément obligatoire dans notre monde. Pourquoi je dis ça? Parce que certains de nos sages disent qu'il est venu le Mishkan que après la faute du Vaudor. Alors que les Kabbalistes Et le Ramban en tête, qui est le dernier des kabbalistes, dit non. Le Mishkan, c'est quelque chose d'obligatoire dans ce monde. Faute ou pas faute, ça n'a aucun rapport. C'est la suite logique du don de la Torah.
Mais le don de la Torah, c'est après la sortie d'Égypte.
Bien fait. Mais une fois sorti d'Égypte, donc j'ai choisi l'élément Israël, je dois lui donner la Torah, mais une fois que j'ai donné la Torah, qu'est-ce qui me reste? C'est ponctuel, le don de la Torah. Moi, j'ai besoin d'un élément qui continue. Et donc, si cet élément doit continuer, comment on appelle la continuité, en hébreu? Retsef. Retsef, c'est une continuée. D'accord? Continuité. D'accord? Ratsouf. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Les ratsef, mazé les ratsef? Carlé. Ritspa. Ritsouf. Donc le mot retsef veut dire une continuité, quelque chose qui est de l'ordre de l'infini et qui te permet en réalité d'avancer, de marcher dessus. Dans Shir HaShirim, qu'est-ce que vous lisez? Que le Beit HaMikdash y a marqué Tocho Ratsuf Ahava Mi Benot Yerushalayim. Ça veut dire de quoi était fait le sol du Beit HaMikdash? D'un amour continuel, puisque Retsef veut dire rispa, mais veut dire aussi continuité. Autrement dit, il faut que jamais, jamais, l'amour ne cesse au Beit HaMikdash, aucun instant. Donc c'est un élément, un bloc d'amour. Le Beit HaMikdash, c'est un environnement amoureux. Vous rentrez là-bas, vous êtes dans l'amour. Vous pénétrez dans l'élément de l'unité, car amour en hébreu, ahava égale echad. Et qu'est-ce que c'est Echad? C'est quand tu deviens frère de la malchoute qu'on appelle dans la Kabbalah Bechina Dalet. La Bechina Dalet, la quatrième forme, c'est la femme. Comme ça on l'appelle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui ouvre et qui ferme. Donc Dalet, c'est Dalet. Donc on l'appelle en réalité le Dalet. Donc si toi, tu deviens frère de ce Dalet, tu es Ach Shel Dalet, donc tu es Echad. Donc le mot Echad, c'est devenir frère de la Malchoute. À chaque fois que vous dites Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad, il faut savoir que Echad, c'est pas un seul mot, c'est Ach Shel Dalet. Il y a ici un homme et une femme, et ils sont frères. Pourquoi? Parce que c'est son âme sœur. Et donc il y a une unité parfaite entre eux. Achoti, ra'ayati, yonati, tamati. D'ailleurs, rassembler en hébreu se dit les echot. Qu'est-ce que ça veut dire les echot? S'unir, devenir echad. Non. Les yached, c'est faire autre chose au niveau de l'unité. Mais les echot kraim, il y a un vêtement qui s'est coupé, qui s'est déchiré. Asa yachol bevakasha le'echot et akraim, pas le'yached. Rapiécé. D'accord? Donc le mot le'ached, c'est ce degré. Et d'ailleurs, on le rappelle dans la Koupa. L'un des termes que nous disons au Khatan et Akala, c'est achva. Veshalom ve'reout. Qu'est-ce que c'est achva? Rapiécé. Car tu étais déjà une pièce, qui s'est découpée lorsqu'elle est descendue dans ce monde, il faut tout simplement la recoudre. C'est tout. Et pour la recoudre, il faut qu'elle appartienne au même vêtement. Alors tu as retrouvé en réalité la pièce manquante. Et lorsqu'on retrouve une pièce manquante, il faut deux témoins. Comme quand je trouve un stylo. Si j'ai deux témoins, il est à moi. Donc j'ai besoin de prendre deux témoins au mariage pour dire c'est la pièce qui me manquait. C'est tout. Et le couturier là-bas, c'est le rabbin. C'est là. Maintenant, quel?
Le couturier?
Oui. On est tous couturiers. Toi aussi, tu es couturier. Je vais te dire pourquoi. Tu ne travailles que sur les coutures. Le matin, tu rapièces la nuit au jour, tu fais chafarit. Le soir, tu rapièces le jour à la nuit, tu fais arbit. Au milieu de la journée, tu fais mincha parce que tu rapièces le moment où le soleil se lève et le moment où il commence à descendre. Donc tu ne travailles que sur les pièces. Rapporté, et tu travailles sur la couture. une fille de Shankar, l'école de couture de Tel Aviv, m'a demandé de l'aider à faire son test final. Chacun doit présenter un projet. Alors elle est venue me voir, parce qu'elle aime l'art, et je lui ai dit, tu vas faire quelque chose que personne n'a jamais fait. En tout cas, je suis sûr, dans ton école, personne n'a jamais fait. Elle m'a dit quoi? Je lui ai dit, tout le monde va travailler sur les tissus, sur les couleurs, sur les matières. Toi, tu vas travailler sur la couture. Je vais travailler que sur la couture avec toi, sur le fil qui va coudre les morceaux. Personne n'a jamais fait ça. Et j'ai sorti avec elle des éléments, elle est devenue folle. Parce que c'est là où se cache tout le secret de savoir coudre deux morceaux qui sont apparemment aucun rapport l'un avec l'autre. Elle a eu le premier prix. Baruch HaShem. Maintenant, ça c'est ce degré de Retzef. D'accord? Maintenant vous comprenez pourquoi le Mashiach s'appelle Peretz. C'est les mêmes lettres à l'envers. Peretz, c'est quoi? L'Ifrot, c'est tout casser pour avancer. Défoncer. Eh bien, Peretz, c'est Retzef. Et ça, c'est le secret des lettres et des mots hébraïques qui sont en réalité une continuité. Alors, c'est un Mishkan ou Erech Mukhlat Be'olamenu. Donc, le Mishkan, c'est quoi? C'est un Erech Mukhrach et Mukhlat dans notre monde. Qu'est-ce que c'est Mukhrach? Obligatoire. Je vous rajoute un mot, Mukhlat. Absolu. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'absolu sur Terre. Tout simplement. Quel est le rôle de l'absolu sur Terre? Donc il est obligatoire, car c'est lui qui nous apporte la vie. On peut dire qu'avant le Mishkan, la vie était tenue à condition. On ne savait pas si le monde allait continuer. Mais si Dieu descend dans ce monde continuellement, on est assuré de vivre. Donc on a fait le tikkun de Chava. Donc Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, voulait quoi? Voulait être dans le monde créé. Maintenant, quand on construit le Mishkan, que faisons-nous? Eh bien, on lui permet de venir. Donc on a réalisé le but pour lequel le monde a été créé. Tout simplement. Donc Dieu attend qu'on lui construise une maison. Alors, quand il n'y a plus de Mishkan, il y a la Shrina qui est résidée. C'est pour ça que les sages nous enseignent les Me'olam Lozaza Shrina Mikotel Amaravi. La Shrina n'a jamais bougé. Toi, tu ne la vois pas parce que tu n'as pas l'édifice nécessaire pour capter l'émission. À quoi cela ressemble? Vous avez un poste radio sur vous là maintenant? Non. Vous avez vos portables. Mais ils sont éteints. J'espère. D'accord? Est-ce qu'il y a des émissions qui sont émises? Tout le temps. Pourquoi vous ne les entendez pas? Parce que vous n'avez pas branché l'appareil ou vous n'avez pas l'appareil, c'est tout. Eh bien, l'émission divine est toujours émise. Elle sort toujours. Vechol, yom, yoset, bat, kol. Chaque jour, il y a cette voix céleste qui sort. Et les gens n'entendent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas les ustensiles, ils n'ont pas construit l'appareil qui est censé recevoir. Un Mishkan ou un Hemshech HaEchrechi, le Matan Torah. Donc maintenant on comprend que le Mishkan c'est la suite logique de Matan Torah, du don de la Torah. Ou Ochez et Erkei HaTorah ou Metzaref Otam la Metziut HaTachtona Beretzef. J'ai joué avec les mots. Donc il prend le don de la Torah qui était ponctuel, des paroles qui étaient célestes, et il a fait descendre ses paroles sur terre. Donc moralité, on devrait continuer d'entendre les paroles de la Torah dans le Mishkan. Et effectivement, c'est ce qui se passait. Où? Entre les deux chérubins. Les sages nous disent que celui qui rentrait dans le Saint des Saints, il pouvait entendre la parole continuelle de Dieu qui sortait entre les deux chérubins. Tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui sépare le Saint des Saints du Saint? Un rideau. Eh bien, celui qui est dans le Saint n'entend pas ce qui se passe dans le Saint des Saints alors qu'il n'y a qu'un rideau qui sépare. Et quand tu es dans le Saint des Saints, tu ne peux pas supporter tellement la voix est forte. Autrement dit, il y a un système qui s'arrête, qui bloque à 1 mètre, à 50 cm, à 20 cm l'un de l'autre. Là, tu entends, là, tu n'entends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu n'es pas dedans, tu n'entends pas. Quand tu es dans le dehors de ta vie, tu ne peux pas entendre. L'entendement ou la compréhension, le message que tu peux capter, c'est seulement si tu as atteint ton Kodesh HaKodashim, ton Saint des Saints. Moralité, ceux qui arrivent à une prophétie, c'est ceux qui pénètrent leur Saint des Saints. Et ils entendent la voix divine parler continuellement, elle ne s'est jamais arrêtée. Pourquoi voulez-vous qu'elle s'arrête? Donc on doit se poser des questions à chaque fois qu'on n'entend pas. C'est un problème. Et c'est pour ça que les sages nous disent, chaque génération où le temple n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. Donc aujourd'hui, le temple n'a pas été construit, ça y est, on a fini la journée, mais c'est comme s'il a été détruit quand? Aujourd'hui. Alors vous, vous avez l'impression qu'il a été détruit il y a 2000 ans. Alors, quelque chose qui a été détruit il y a 2000 ans, ah, ça va, blabate. Mais quand tu as conscience qu'il a été détruit tout à l'heure, cet après-midi, Chas v'Shalom, imaginez-vous maintenant rentrer dans la peau. Ah, ça c'est autre chose. Je me demande même si quelqu'un serait venu au cours. C'est ça le problème, on n'a rien compris en fait. C'est pour ça qu'on ne languit pas la chose, parce qu'on n'a rien compris à la chose. Il a fait. Et c'est pour ça que malgré ça, nous devons être Bessimcha, parce que nous sommes dans un processus de retour. Effectivement, on n'avait pas le droit d'être en Simcha tant qu'on n'était pas revenu sur notre terre. Mais maintenant, on doit être dans un mouvement de Simcha qui nous amène à ça. Abraham Avinu, quand il va, entre guillemets, attacher son fils, pour le ligoter, il est dans la Simcha ou dans la tristesse? Dans la tristesse? S'il était dans la tristesse, il n'aurait plus entendu la prophétie de Dieu. Incroyable! Ça veut dire que même quand il a reçu le message d'aller sacrifier son fils, il est obligé de rester dans la Simcha pour entendre la prochaine névoie qui est en train d'arriver. Sinon la névoie s'arrête. Incroyable! Ça se commande. Ken, ça se commande et ça se dirige. J'entends. Ken.
Il a écrit Betorah.
Nachon.
Non, Betorah.
Nachon.
Alors pourquoi dire que Beth Amidash maintenant, c'est comme si on l'avait détruit, si la présence divine allait dans nos cœurs.
Parce qu'il faut construire l'édifice. C'est comme si tu coupais le Mishpat en deux parties. Pourquoi tu ne fais pas référence à Ve'asu li Mikdash? C'est une demande divine. Ça veut dire que si il demande Ve'asu li Mikdash, et il faut faire ce Mikdash, même si Dieu ne sera pas coincé dans ces quatre murs. Mais c'est un élément de passage. Comme vous, Dieu ne sera pas coincé dans vos cœurs seulement, c'est un élément de passage. Pour qui? Pour l'humanité tout entière.
Pourquoi Mikdash et le Mikdash?
Bien fait. La Gemara pose la question. Un coup tu me dis Mikdash, un coup tu me dis Mishkan. Les sages nous disent dans ma Maaseret Ta'anit, Mikdash ou Mishkan, ve Mishkan ou Mikdash. C'est la même chose. La seule différence, c'est que Mikdash, c'est lorsqu'il y a la stabilité, Eretz Israël, et Mishkan, c'est une tente provisoire. Moralité, Akadosh Baruch Hu n'a jamais construit une maison dehors d'Israël. Tant qu'il n'est pas en Israël, il est dans les tentes. Il veut pas. Et certains d'entre nous aiment bien construire en dehors d'Eretz Israël. Alors que là-bas, il faut être dans des guitounes, dans des tentes. C'est ici, en Eretz Israël, qu'il faut construire. Jamais à l'extérieur. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne son exemple. C'est...
Vous avez dit que chaque personne devrait percevoir la parole divine.
Nakhon.
Mais alors, un avis, à part Moshe, un avis normal...
Tu veux mon avis?
Et ben on disait qu'il recevait ponctuellement lui aussi la... C'est-à-dire il s'écroulait et il recevait la...
Ponctuellement, parce que ponctuellement il était au niveau.
Ça veut dire qu'il était pas... il pouvait aller plus loin.
Non. c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il te prophétise. Ça veut dire que la parole est tout le temps émise, mais c'est lui qui décide quand toi tu seras au niveau maintenant d'être dans le la réception.
Alors nous on fait rien, on attend.
Non, tu te fais pour devenir prophète, et une fois que tu es devenu prophète, tu attends qu'il te prophétise. D'accord. Est-ce que tu as déjà fini les études de prophétie? Alors il y a des prophètes qui sont arrivés, jusqu'à la fin de leur doctorat, ils ont jeté le machin, bien comme ils font les Américains, mais ils n'ont jamais été prophétisés. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ok.
Ça veut dire se connecter.
Se connecter. Se connecter pas à soi-même. Se connecter aux valeurs divines qui viennent. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'objectif. Parce que soi-même, c'est subjectif. Je peux m'inventer des choses. Je peux vous dire que j'entends des bruits. On enferme pour moins que ça aujourd'hui. Moi, je vous parle d'une voix céleste. Alors, comment on sait si c'est une voix céleste? Mais ceux qui reçoivent ne posent pas cette question. C'est tout. Tant que vous vous la posez, c'est que c'est pas encore arrivé. Même le prophète Eliaou, et certains d'autres prophètes, ne savent pas si vraiment c'est une prophétie, au départ. Il faut s'habituer. Donc, Tocho Rasouf Ahava, donc, le parterre de ce Mishkan, c'est l'amour. Et qui a fait cet amour? La suite, c'est Mibenot Yerushalay. Attention. C'est pas, il est rempli d'amour parce que, oh, c'est vous, ceux qui avez donné, vous avez donné de vous-même, vous avez été extra large.
Les bijoux, là.
Tout. Le cœur. Les bijoux, je peux donner, mais de force. Bien fait. C'est ça le but. C'est donner avec nedivut. Nadiv. Kol asher yideven ulibo. Tikru et tourmati. Pourquoi? Parce que tikru et patitnu. Mais justement, alors pourquoi tikru? Veikru li. Normalement, veitnu li. Non, tout simplement parce que tout ce qu'on donne, ça vient de lui. Donc en réalité, je lui redonne ce qu'il t'a donné. Vous n'avez rien à vous, rien du tout. Un jour, Ken, Abarbanel, on lui a tout pris. On est venu chez lui, il a dit on te prend tout. Il dit vous n'avez rien à prendre, j'ai rien. J'ai rien. Il dit mais comment t'as rien? Quoi, c'est tout ça? Il dit moi j'ai rien, c'est pas à moi tout ça. Moi ce qui est à moi, c'est ce que j'ai donné dans ma vie. Donc en réalité, vous pouvez tout prendre. Ça ne change rien.
Comme Dérouya.
Moi
Dérouya avec ses deux enfants.
D'accord. Binyan shenovea mine divut halev shel Israël ou mina ratson leamshich et hashamayim ala aretz lanetzach. Donc il y a un désir, une volonté de continuer le ciel sur terre. Si tu n'as pas cette volonté, et je ne parle pas maintenant de l'époque, je parle de maintenant, vous devez avoir cette volonté. C'est ce qui doit vous faire courir. Rappelez-vous, le mot ratson, c'est la route. Si vous courez pour ça, vous êtes relié en fait à ce ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui doit nous faire, c'est ça notre moteur. On n'a pas d'autre moteur. Ça se concrétise par le fait que tu es tout le temps dans ton action, dans la simcha totale. Tu ne fais pas les choses parce que tu dois les faire. Tu te lèves le matin, tu es à moitié mort, tu mets les tefillin, qui est à trois tiers, aux deux tiers mort, et tu les attaches, tu te demandes même si tu as fait Birkat Amazon une fois que tu as fini de manger, tu te rappelles plus. C'est pas ça. On est devenus des robots. Regardez ce qu'il y a marqué dans vos bouquins en français, j'appelle ça des bouquins. Rituel de prière, chez Mishmor. C'est devenu un rituel. C'est un rituel, la prière, Chazé Shalom. Moi, j'aime jouer avec les mots, parce que c'est pas ma langue natale. Donc, je dis rituel, c'est rituel. Elle est morte. Ita bechazal, les sages nous disent, kol mi sheyesh bo de'a, ke ilu nivna bet amigdash beyamav. Voilà, je vous donne un cadeau. Quiconque a le da'at, c'est-à-dire la force de faire des connexions, donc une intelligence aiguë qui arrive à faire des connexions entre les, tous les degrés de ce monde, eh bien, c'est comme si le Beth Amikdash était construit en son temps. Moralité, nous sommes là avec un Beth Amikdash individuel. Puisque si toi non et moi oui, pour moi il y a Beth Amikdash, pour toi non. C'est ce que les sages nous disent. D'accord ? Donc si moi je le Beth Amikdash, tu peux venir me demander, prends-moi une photo. Parce que je l'ai pas encore vu moi. Et moi je dois te répondre, est-ce que tu as acheté du Da'at ? Ça s'achète le Da'at ? Oui, ça s'achète. Qu'est-ce que ça veut dire acheter ? Bosser, exactement. C'est ça le travail. Yagata ou Matata Ta'amin. Je vais vous raconter un secret. Vendredi soir, j'ai dormi, comme tout le monde. Et je me suis réveillé samedi matin avec un rêve. Baruch Hashem, Toda Rabba. Alors, dans ce rêve, on m'a dit, le cours que tu donneras demain matin, parce que j'ai un cours Shabbat matin, dans mon petit village, tu le donneras autour du mot Matza. Alors, je me suis mis dans mon rêve à travailler. Dans le rêve, je travaillais dans mon rêve, mon cours.
Avec Hé ?
Non, Matza, c'est la galette avec Hé. Ça, c'est trouvé. Non, c'est moi qui rêvais. Elle veut rentrer dans mon rêve maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, en réalité, dans le rêve, je recevais les messages au fur et à mesure. Et tu verras pourquoi c'était avec un Aleph. On me disait, si tu veux trouver, il faut que tu aies soif. Donc tu dois être samé. Et si tu es samé, tu peux trouver. C'est-à-dire, celui qui n'a pas soif ne trouvera jamais. Et quand tu auras bu, tu deviendras courageux. Omer. C'est les mêmes lettres. Tout ça, c'était dans le rêve. Hein? Ça veut dire qu'en réalité, on m'a expliqué que le secret de cette Metsia, c'est parce que tu as soif. Comme on dirait dans un langage d'aujourd'hui, il a faim. Quand il a faim, il gagne. Quand vous avez un joueur de tennis qui est classé, je sais pas moi, 30, et qui est le premier au monde, le premier du monde, il arrive au terrain tranquille. L'autre, il a faim, il veut gagner. Donc il joue comme un fou. Et parfois, ça marche. Mais c'est la même chose dans la vie. Si vous n'avez plus faim, vous ne pouvez plus trouver. Nachon. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la prophétie, Vaya bayomahu, lotiutzmeim le maim, veloreevim le lechem, ki im lishmoa dvar Hashem. C'est-à-dire à la fin des temps, c'est aujourd'hui. Vous n'aurez plus soif seulement pour boire ou pour manger, vous n'aurez plus faim. Mais vous aurez cette faim qui va commencer à vous rentrer dedans. Ken? À l'intérieur. Et c'est pour ça que quand j'arrête de manger, eh bien, je jeûne à Tsoum. C'est les mêmes lettres. À Tsoum. Ani, on lève la Tsoum. À Tsoum. On ne dit pas Ani Yetsoum. Ken? Comme les mauvais hébraïsans. Ken? Ani Yochal. Ani Yavo. Later. Ken? Ani Avo. Ani Ehye. Pas Ani Ye. Machar Ani Yavo. Ça, c'est pour Hébreu Shruna, ce qu'on appelle. Rashrina. Donc, il faut faire attention de toujours accélérer le processus. Donc, Me'itz. Me'itz, qu'est-ce que c'est les Ha'itz ? Accélérer. Donc, je suis en train d'accélérer le processus parce que j'ai reçu du courage, parce que j'avais faim. Vous avez soif, et donc j'ai trouvé, et donc je deviens en réalité Amit et Atsum. C'est-à-dire je peux en réalité devenir quelqu'un qui comprend et qui connecte tout ça. Tout ça c'est à cause de Adam et Chava, on appelle Chava parce que c'était la partie féminine, donc la partie révélatrice. Quelle ?
On n'a jamais fini.
On n'a jamais fini. Jamais, même le, l'autre, celui qu'on va construire, jamais il sera fini. Sinon, ça veut dire que quoi ? Que Dieu est limité ? Tu auras toujours quelque chose à apprendre, ça t'angoisse ? Au contraire, moi ça me réjouit. Tous les jours, il y aura un nouveau un chidouche.
Mais ça sera que les paroles de la
Kadosh, je vais dire n'importe quoi. Mais on va se délecter de ça d'une manière incroyable. Comme on peut se délecter d'un cours, effectivement. D'un chiot. Mais à un niveau qui est infiniment plus grand. Ça, c'est de la rigolade qu'on est en train de faire maintenant. C'est pour ça qu'au Beit HaMikdash, tous les jours, il y avait une grappe de raisin en or, et chaque jour, il y avait un raisin en plus. Un grain.
Pourquoi ?
Parce que il n'y a pas de Beit Midrash sans Chidouche. Ça veut dire que dans notre monde, il y a toujours un changement, toujours une évolution, toujours quelque chose de nouveau. Et toi aussi, tu dois être comme ça quand tu te réveilles le matin. Si tu es la suite de ce que tu étais hier, tu es en train de vieillir. Ça va pas. Quelle ? Une petite ? Tu auras une petite réponse. Je te dis d'abord. Pas pour ça. Pas pour ça. Pas pour l'inauguration du Mishkan. Mais et kol ish asher idéven ou libot ikru et traumati. Michelo idéven ou libot, al tikru et traumati. Là, on sait. Ah, c'est autre chose. Il y avait pour les korbanot, pour le service dedans, après. Et pour les adanim, pour d'autres degrés. Mais pour ce degré-là, d'ailleurs, il y a trois dons. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est infini. Dans le verset, il y a trois fois donné. Il y a trois fois le mot trauma. Pour trois degrés de dons. Un don qui est au niveau de l'esprit, un don qui est au niveau du ressenti, et un don qui est au niveau de la matière. Donc c'est encore un autre secret. Mais je ne peux pas rentrer dans tout parce que c'est infini. D'ailleurs, c'est un grand souci de limiter un cours. C'est terrible. On ne sait pas par où commencer. C'est frustrant. Et on a de plus en plus faim.
Donc on est bien, on est sur
la bonne voie. On est sur la bonne voie. Vous doutez ? Baruch HaShem, j'arrête pas de vous le dire qu'on est sur la bonne voie. On est sur la voie, Baruch HaShem, on est complètement sur la voie. Et V-O-I-X et V-O-I-E. Vous avez entendu déjà le chauffard, vous avez l'impression que non, mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez entendu. Rappelez-vous seulement cet engouement que vous aviez au départ. C'est celui-là qu'il faut retrouver. C'est avec ça qu'il faut tout le temps se renouveler. Nachon, il faut pas. Quel? Chas v'shalom, ça aussi c'est un langage, la fumeur, chas v'shalom. Ça fait peur, non? Donc, toi, Ken, ils ont, il y a tout est, moi j'entends les trucs à de l'extérieur, donc pour moi c'est jamais un mot. Je découpe tout. C'est terrible, c'est aussi, bon, ça fait partie de la couture. Hein. Quel? Il a fait. Tu crois être traumatisé? Parce qu'en réalité, c'est ma trauma, c'est moi qui donne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quand tu me donnes quelque chose, d'où c'est venu? De ce que moi je t'ai donné. Donc en réalité, tu ne fais que rendre ce que tu as déjà reçu. Donc on n'a rien de nous-mêmes. D'accord. Alors ça, c'est au premier degré. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est au degré beaucoup plus profond. Si tu donnes de toi, c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est subjectif. Tu peux inventer des choses. Dieu, il demande qu'on donne quelque chose qui vient de lui. Attention, c'est ça la Torah. Sinon, on invente une religion. Si je donne de moi, alors je me dis, attends, je vais me construire un petit hôtel de sacrifice chez moi à la maison, je vais mettre deux stylos, et je vais m'allumer une fumée au milieu. J'invente une religion. Ça vient de qui? De moi. Ça, c'est de la Vodazara. Donc, et Trumati, faites ce que moi je veux, pas ce que vous inventez. Sinon, ça devient une religion. Et comme le judaïsme n'est pas une religion, on n'a pas le droit de faire ça. Si c'est pas lui qui le dit, si ça vient pas de lui, si c'est moi qui invente quelque chose, je peux arriver à n'importe quoi. Chas v'shalom. Donc je dois toujours savoir ce que lui veut. Donc ce que lui me donne, de ça je dois prendre pour rendre. Parce que c'est ça. Je vais terminer parce qu'on n'a rien fait, c'est tellement c'est énorme, mais Be'ezrat Hashem, on a plusieurs parshiot où on va parler de ça, donc on va continuer. À quoi ça sert en fait que le Mishkan descende sur terre ? que j'ai un Beth Mikdash à côté de moi tout le temps. Je me lève le matin, j'ouvre les fenêtres de ma tente, ou les fenêtres de ma maison, ou je roule quelques kilomètres de mon petit village, j'arrive à Yerushalayim et je vois le Beth Mikdash. À quoi ça me sert? À part me dire, waouh!
Il y a le
Hachan, et alors on s'en fiche. Le Hachan, je peux trouver un Hachan en laser. Pour te connecter, pourquoi faire?
Pour ne pas dépasser, comme vous dites, si je vais faire ma propre religion.
C'est-à-dire quoi?
Me donner un cadre de...
Une mesure. Il faut que j'ai... Comment on dit en français? Un... Non. Non. Un étalon. Si je n'ai pas un étalon, c'est-à-dire si je n'ai pas une mesure par laquelle je peux me mesurer, comment je vais savoir? C'est vrai, c'est la limite, parce que je suis humain. Donc en réalité, le Beth Amikdash, il me donne la mesure exacte de ce que Dieu veut sur terre. Donc plus je suis proche de ces mesures, mieux je suis. Plus je suis loin de ces mesures, moins je suis bien. Donc je peux me mesurer par rapport à ma proximité ou à mon éloignement de ces degrés-là. Vous avez compris? C'est énorme, ça! C'est énorme! Et si vous n'avez pas ce donneur de mesure, qu'est-ce que vous avez inventé comme mesure? C'est impossible! Il y a fait. Donc je dois, maintenant vous comprenez naturellement, qu'il faut étudier les mesures du Mishkan. Or, les mesures, ce sont les midot. Et on va s'apercevoir que ces midot se trouvent à l'intérieur de nous. Donc si je fais le tikkun de mes midot, de mes mesures, alors les midot, les mesures ne se disent pas seulement midot, mais se disent aussi shiurim. Car shiur veut dire mesure. Donc il faut qu'à chaque fois que je fasse un shiur, un imeshaer, je suppose, et c'est la racine du mot sear, searot. C'est-à-dire, ce sont des canaux de mesure qui captent et qui redonnent. Et tout ceci pour le prochain épisode. Toda Rabba.
La manière dont tu as attaché le garçon, le problème c'est qu'il est dans une couveuse, parce qu'il est trop...
Il va pas bien le faire, mais ça va se faire.